Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Maïlys André, mais aussi Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Deuxième temps de notre série consacrée à l'Union européenne à quelques semaines des élections qui se tiendront en mai prochain. Hier, nous nous sommes glissés dans les coulisses du Parlement européen pour en dresser un bilan. Demain, nous discuterons de l'espace Schengen et de la question des mobilités. Jeudi, nous nous interrogerons sur l'élargissement. Mais aujourd'hui, place à l'une des idées les plus audacieuses du projet européen, la monnaie unique. Euro, 20 ans, l'âge de raison, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Le 1er janvier, quand je vais ouvrir, je vais commencer à rendre la monnaie en euros contre une valeur française sans rendre de billets. Et on s'arrange pour des petites sommes.
Ben, l'euro, non, ça va pas nous changer la vie. Je pense que c'est important, mais disons dans le pratique quotidien, ça va pas être la révolution, hein.
Moi, je connais pas les pièces encore. Je viens juste de sortir du kit, alors c'est la première fois que je paye en euros. Alors c'est pas évident, mais enfin, on va s'habituer, quoi.
C'était ce dont on rêvait il y a 30 ans et c'est devenu réalité.
We can go everywhere.
On peut aller partout, sans avoir à réfléchir à un taux de change ou quoi que ce soit d'autre. Oui, on est comme une famille.
We are a family.
Je ne sais même plus ce que le franc est, ni à quoi ça correspond. Enfin bref, je ne peux pas du tout imaginer aujourd'hui mon quotidien hors euro.
Le 1er janvier dernier, l'euro fêtait ses 20 ans. Il y a deux décennies maintenant, les Européens renonçaient à leur monnaie respective pour adopter une monnaie commune. L'objectif, renforcer les liens économiques, mettre fin aux incertitudes liées aux fluctuations d'échanges, contribuer à la prospérité, bref, pousser un peu plus loin l'ambition européenne. Mais alors que 19 pays sont aujourd'hui dotés de la monnaie unique, concrètement, comment va l'euro? En 20 ans, il est devenu la deuxième devise sur la scène internationale, solidement installé derrière le dollar. Il a contenu l'inflation, accéléré la croissance économique de la zone euro. Et pourtant, dans le même temps, l'euro est très souvent pointé du doigt. On le rend responsable de la hausse des prix, de la baisse du pouvoir d'achat, des inégalités, du chômage. Certains prédisent même sa disparition à terme. Alors 20 ans après son adoption, l'euro a-t-il tenu ses promesses? Que nous a-t-il apporté et peut-il encore nous apporter? Quelles failles la crise de 2008 qui a ébranlé l'union monétaire a-t-elle révélé? Ont-elles été comblées ces failles? Et que reste-t-il à faire pour renforcer l'euro et pour faire de l'Europe un pôle de prospérité et de stabilité? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous. D'abord Anne-Laure Delatte, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice adjointe du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, et puis chargé de recherche au CNRS. À nos côtés, mais depuis Bruxelles, Jean Quatremer, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste correspondant du journal Libération à Bruxelles et puis auteur d'un ouvrage qui vient de paraître au début du mois. Il faut achever l'euro. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'euro sans oser le demander qui vient de paraître chez Kalman Levy. Alors, achever l'euro, vous n'appelez pas à la fin de l'euro, mais au contraire, vous appelez plutôt à son parachèvement. On va y revenir, évidemment. Anne-Laure Delatte, je vais commencer avec vous. Novembre dernier, il y a un sondage Eurobaromètre qui révélait que 64% des habitants de la zone euro estiment que la monnaie unique est une bonne chose. C'était le plus haut niveau enregistré depuis 2004. 64% des interrogés disaient qu'il était bon pour leur pays. Malgré les crises dont on va parler, malgré les difficultés, l'euro est extrêmement populaire, bien plus que nos dirigeants. Anne-Laure Delatte.
Alors oui, ça surprend toujours, d'une part, et c'est une... C'est un sondage qui est beaucoup repris aussi dans les institutions européennes, parce que on se rassure à Bruxelles en se disant attention, les citoyens, on a beau être attaqué de partout, les citoyens tiennent à la monnaie unique. Alors effectivement, c'est rassurant. Bon, pourquoi ils tiennent à la monnaie unique, ces citoyens européens? D'abord parce que derrière la monnaie, il y a une histoire de souveraineté, de politique, de vivre ensemble. Hein. J'ai noté dans les sons du début quelqu'un qui disait « we are a family ». Et effectivement, c'est drôlement pratique de pouvoir utiliser la même monnaie en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. Après... On voit bien que les citoyens ont probablement compris que la monnaie européenne est plus stable que la plupart des monnaies avant. Alors, je parle pas du Deutsche Mark, mais je parle plutôt de la lire et même du franc. Donc, il y a plus d'inflation et on n'aime pas l'inflation, en particulier quand on est épargnant. Donc il y a plein de bonnes choses, effectivement. Et les Européens n'ont pas forcément compris exactement ce qui s'était passé. En tout cas, finalement, enfin ce qui s'était passé, on a subi une énorme crise à partir de 2010. Et la manifestation de cette crise, elle est plutôt dans la sphère sociale, chômage, baisse des salaires. Et je ne suis pas sûre que les citoyens aient tout à fait compris le lien entre le fait qu'on partage la même monnaie et l'austérité et toutes les conséquences réelles.
On reviendra évidemment sur cet épisode de la crise des dettes souveraines, évidemment. Jean Quatremer, sur cette représentation, je le disais, hein, 74% des Européens estiment que la monnaie unique est une bonne chose. Mais quand on a dit ça, il faut regarder aussi pays par pays. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de disparités. Il y a des pays qui soutiennent très fortement l'euro, l'Irlande, le Luxembourg, pour ne pas les nommer, et puis d'autres qui ont plus de mal. Et c'est le cas, par exemple, ici, du côté de la France. Donc on voit bien qu'il y a des disparités aussi entre les différents États membres sur cette représentation de la monnaie unique. Hein.
Ça dépend aussi un peu des débats nationaux. C'est très indexé sur la contestation en interne. Il faut quand même voir qu'en France, par exemple, au moment de la présidentielle, vous avez quand même à peu près 50% des Français qui ont voté pour des partis eurosceptiques ou europhobes, c'est-à-dire le Front National, la France Insoumise et Nicolas Dupont-Aignan. Donc il y a quand même en France, je dirais, un certain substrat au moins d'euroscepticisme. Mais je crois que le bilan...
Ce qui est d'autant plus étonnant, Jean Quatremer, pardon de vous couper, qu'en réalité, ces partis que vous avez cités, je pense en particulier au Rassemblement National, n'envisagent plus du tout la sortie de la zone euro. Ça a pu être un moment envisagé, voilà. mais l'évacuation, si je puis dire, de Florian Philippot et l'illustration de ça, même du côté du Rassemblement National, on n'imagine même plus sortir de la zone euro.
Alors, j'allais y venir, justement, vous allez plus vite que ma propre musique. Ce que je voulais dire, c'est que, justement, ce qui est intéressant, c'est que l'euro, quoi qu'on en dise, a été un immense succès technique. Et moi, je fais partie des gens qui considèrent que même techniquement, financièrement, ça peut durer comme ça pendant encore 10, 20, 30 ans, voire pour l'éternité, si les citoyens continuent à accepter la façon dont la zone euro fonctionne. On a eu un moment où, en 2012, même plus tard, jusqu'en 2015, où des pays auraient pu quitter la zone euro. Et ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non seulement aucun pays n'a quitté la zone euro, c'est-à-dire notamment la Grèce, qui est en 2015, au moment où un parti de gauche radicale, Syriza, s'est fait élire, aurait pu quitter la zone euro. Et finalement, en juillet 2015, Alexis Tsipras, le premier ministre de Syriza, a renoncé à sortir de l'euro. C'est-à-dire que tout le monde a bien conscience que il n'est pas question de quitter la zone euro. On peut pas quitter la zone euro. Alors, sans doute, techniquement, on peut pas la quitter. C'est extrêmement extrêmement complexe. Et non seulement on peut pas la quitter, mais regardez, tout le monde veut plutôt la rejoindre. Il y a une volonté d'un certain nombre de pays de l'Est qui, à mon avis, sont pas prêts de la rejoindre. Et on sait tous qu'à terme, la plupart des pays d'Europe de l'Est rejoindront sans doute la zone euro. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que globalement, l'euro est rentré dans nos mentalités. Et en mai 2017, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu Marine Le Pen qui s'est scratchée en plein vol sur la question de l'euro. Elle a perdu sur l'euro. Je veux dire que aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'elle a abandonné la sortie de l'euro, qu'au lendemain de la présidentielle, il y a eu, figure habituelle de l'extrême droite française, une nuit des longs couteaux où on a liquidé l'ensemble des souverainistes. Et aujourd'hui, il n'est plus question d'une sortie de l'euro. Regardez en Italie, par exemple, le mouvement 5 étoiles ou la Ligue qui avait annoncé un référendum sur la sortie de l'euro, ils ont abandonné toute idée d'un référendum. En Autriche, le FPE, un parti dit néo-nazi qui lui-même voulait sortir de l'euro, a totalement rangé cette option. Donc aujourd'hui en Europe, plus personne ne veut quitter la zone euro, même si, encore une fois, il y a une adhésion variable selon les opinions publiques.
C'est dire combien on y tient, Anne-Laure Delatte, effectivement, même les partis eurosceptiques tiennent aujourd'hui à l'euro.
Oui, alors on avait fait une étude au CEPI en 2016 pour regarder un peu les coûts d'une sortie de l'euro, du Frexit. Et en réalité, si vous regardez, c'est quoi l'intérêt de sortir de l'euro ? Au départ, c'est pour booster un peu votre compétitivité, c'est-à-dire que on espère qu'on va dévaluer et être moins cher, exporter moins cher.
Et donc exporter plus.
Et rétablir la balance courante. On avait fait une petite étude en regardant secteur par secteur et on se rendait compte qu'il y avait des secteurs qui effectivement bénéficieraient d'une sortie de l'euro, mais plein d'autres secteurs qui n'en bénéficieraient pas du tout. Pourquoi ? Parce que en fait cette dévaluation, elle aurait lieu vis-à-vis des Allemands, mais on s'apprécierait vis-à-vis des Italiens et des Espagnols, parce que eux sont encore plus surévalués que nous, d'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Et en réalité, il ne faut pas sous-estimer le fait que, au niveau un peu plus granulaire, les agriculteurs, les industriels, ils sont complètement conscients de qui sont leurs clients, et que, en réalité, sortir de l'euro, au-delà des coûts de transaction, de la stabilité financière, etc., quand ils font leur addition, ils se rendent compte que ça ne les aiderait pas. Et alors, le point essentiel, à mon avis, celui qui a déclenché cette vague, finalement, de « Ah non, une sortie de l'euro, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça », c'est que je pense que les gens aussi ont compris que si on sort de l'euro, on revient au franc. Et revenir au franc, ça veut dire que toute notre dette qui est libellée en euros coûterait beaucoup plus cher. Et donc, on avait fait des estimations au CEPI. Pour la France, ce serait absolument catastrophique. Parce qu'en fait, on est endetté vis-à-vis des mauvais pays. En gros, on prête aux pays qui se dévalueraient et on emprunte aux pays qui se réévalueraient. Donc, ça peut avoir l'air technique, mais en réalité, dès que vous toucher au portefeuille des citoyens. Moi, je crois vraiment fondamentalement que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Jean Quatremer. Hein. Il y a un retour en arrière sur cette histoire de Frexit et d'exit dans l'ensemble de la zone euro, parce que je crois que les gens ont compris ce qui pourrait se passer. Et en fait, on n'a pas de... ce serait une instabilité bien plus importante que le Brexit.
Les responsables politiques ont compris aussi le coût politique. Anne-Laure Delatte, et puis ensuite je me tournerai vers vous, Jean Quatremer. Vous avez dit tout à l'heure, et effectivement, la très grande majorité des économistes s'accordent pour dire que la grande réussite de cet euro, c'est d'avoir contenu l'inflation. Et en même temps, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord et qui considèrent que précisément ça a un peu atteint leur capacité, leur pouvoir d'achat. Il y a un vrai sentiment inflationniste, je reprends la formule de Jean Quatremer qu'il utilise dans son livre. Si on regarde un peu les choses de façon méthodique, si on fait un comparatif entre les périodes avant et après l'adoption de l'euro, quelles sont les différences? Comment l'inflation a évolué sur ces différents temps?
L'inflation, je crois que c'est intéressant de parler de sentiment d'inflation, même si il faut pas le prendre du tout à la légère. Hein. Mais les statistiques qui sont publiques, que vous pouvez consulter, vous montrent qu'il n'y a pas eu d'inflation démesurée. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas démesurée, il n'y a pas eu d'augmentation d'inflation. Au contraire, on a réduit l'inflation. L'inflation, ça veut dire quoi? C'est la croissance des prix année après année. L'objectif même de la mise en place de l'euro, c'était de réduire cette croissance des prix. Et vous le voyez, en gros, on a divisé l'inflation par deux. Alors maintenant, il y a peut-être eu un effet psychologique au départ, qui est que ma baguette qui coûtait... Rappelez-moi combien ça coûtait une baguette à l'époque. Peut-être 3 francs, je sais plus. Bon.
C'était 5 francs ou 6 francs.
C'était presque 1 euro. Voilà. C'était peut-être 90 centimes et certains boulangers l'ont passé à 1 euro. Alors, il y a eu un effet psychologique comme ça de seuil. Vous voyez, mais dans les chiffres, en réalité, on n'a pas d'augmentation de l'inflation.
Donc, quand on regarde les choses de façon neutre, objective, froide, l'inflation a été très limitée, et ça, c'est un des effets de l'euro. Et pourtant, Jean Quatremer, ce sentiment inflationniste, il est là. Alors, pourquoi est-ce qu'il est là, et comment est-ce qu'on fait pour lutter contre? Parce que c'est un vrai problème.
C'est un véritable problème parce que moi-même, au moment du passage à l'euro fiduciaire, donc ça, on parle du 1er janvier 2002, ouais, pas la fixation définitive des parités donc qui sont intervenues le 1er janvier 1999, moi-même, j'ai eu ce sentiment d'un dérapage inflationniste. Alors, c'était dû à deux facteurs. D'abord, je pense qu'il y a eu, effectivement, une petite opportunité mise à profit par certains commerçants, notamment les restaurateurs et les cafetiers, en France, mais ça a été vrai dans un certain nombre d'autres pays, on l'a vu en Grèce, là, ça a été massif en Espagne et ailleurs, où on a arrondi les prix au niveau supérieur et non pas, ça n'a pas été une transcription, au centime près. Dans les restaurants, ça a été exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment de voir un dérapage des prix, c'était pour les achats d'habitude. Alors c'est vrai que l'inflation ne mesure pas le panier de la ménagère, par exemple, la ménagère qui gagne 2000 euros. Enfin, la ménagère, je me mets dans les ménagères. Hein, attendez, c'est pas genré quand je dis bon, mon panier à moi. Bon, par exemple, de quelqu'un qui gagne 2000 euros n'est pas le même que celui de quelqu'un qui gagne 5000 euros. Donc les gens qui gagnent 2000 euros, eh bien, ont eu un sentiment inflationniste extrêmement fort. Et ça ne se dissipe pas. C'est-à-dire que 20 ans après, c'est comme le sentiment d'insécurité. Mmh. C'est pour ça que je parle de sentiment inflationniste. Vous entendez des jeunes qui n'ont jamais connu le franc français ou le Deutschmark, enfin, pour l'occurrence, de vous parler du dérapage des prix dû à l'euro, alors que tous les chiffres montrent que c'est l'inverse. Mmh. S'il y a bien eu une monnaie inflationniste, une monnaie qui a fait déraper les prix en permanence, c'est le franc. Prenez l'évolution des prix 20 ans avant le passage de l'euro et ensuite l'évolution des prix 20 ans après le passage à l'euro, ce n'est pas la même chose. Alors un dernier effet, je pense, qui explique beaucoup ce sentiment inflationniste, c'est qu'en France, le taux de conversion a été extrêmement complexe. C'est 6,54. Voilà. Alors que en Allemagne, c'était simple, ils ont divisé par 2. Donc on pouvait contrôler exactement les prix. Et donc là, il n'y a pas eu de dérapage parce que les commerçants étaient sous surveillance. Là, le temps de faire la conversion chez votre boulanger, bon, ben vous étiez déjà sorti et vous aviez l'impression de vous être fait avoir. Alors on a tiré une leçon de cela. C'est que quelques années plus tard, pour les autres pays, c'est-à-dire après les 11 pays, donc il y en a 8 autres qui ont rejoint, tous les autres pays ont instauré un contrôle temporaire des prix. Et pendant 6 mois. Et le résultat, c'est que dans ces pays, il n'y a pas eu de sentiment inflationniste. En fait, en réalité, ce sentiment inflationniste a été créé par la démission de l'État, parce que l'époque était, rappelez-vous, c'était l'État doit pas intervenir dans le contrôle des prix, doit pas dans les marchés, etc. C'était Fabius, hein, à l'époque, ministre des Finances, par exemple, qui ensuite a appelé à voter non en 2005, qui s'était opposé à tout contrôle des prix. Et ça, on l'a payé durablement. L'État doit jouer son rôle dans une période comme celle-là.
Alors ça, c'est pour la réussite de l'inflation. Je voudrais qu'on avance un petit peu, parce qu'il va il va falloir qu'on arrive à la crise de l'euro à un moment, et il y a quand même 2-3 choses à évoquer avant. Anne-Laure Delatte, je me tourne vers vous. L'inflation, c'est pour ce qui est des réussites. Pour ce qui est de la grande faille de l'euro, c'est en tout cas ce qui semble apparaître, c'est que s'il n'a pas permis la convergence des économies, y compris d'ailleurs dans des pays qui sont comparable économiquement. Si on regarde par exemple la France et l'Allemagne, avant la crise de 2008, le PIB par tête était quasiment le même, pas tout à fait mais quasiment, et aujourd'hui il est près de 15% supérieur en Allemagne. Alors pourquoi l'euro a échoué à faire converger les économies des États membres ?
Alors, effectivement, je pense que une vraie leçon de la crise, c'est que alors qu'on pensait qu'on allait se mettre sur un sentier de convergence et que les pays dits périphériques, les pays qui avaient un PIB par tête inférieur au nôtre allaient nous rejoindre. Bon, il y a eu une augmentation de richesse à peu près dans l'ensemble des pays, mais on a des exceptions. Par exemple, le Portugal n'a pas du tout évolué pendant 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au lieu de convergence, on a eu une divergence, et une divergence en particulier commerciale. Vous avez les pays du Nord qui ont énormément bénéficié de la monnaie unique et qui ont exporté davantage, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont trouvé un marché dans le sud de l'Europe avec des pays qui, tout d'un coup, ont premièrement eu une monnaie plus stable, mais surtout eu accès à des taux d'intérêt bien moins élevés que ce à quoi ils avaient accès dans les années 90. Concrètement, un Grec ou un Italien a emprunté beaucoup moins cher pour payer sa maison ou payer sa consommation. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la balance des paiements de l'Europe? On ne s'en rendait pas compte parce qu'on ne regardait que la balance agrégée, et vis-à-vis des Américains qui étaient en train de faire des déficits courants absolument extraordinaires, et une des raisons de la crise de 2008 c'est ça, nous on voyait rien parce que dans l'ensemble on était équilibrés. Mais en réalité, si vous regardiez au niveau des pays, vous avez eu une divergence avec les pays du Nord qui ont accumulé des excédents commerciaux, c'est-à-dire qu'ils vendaient énormément, notamment aux pays du Sud qui, eux, ont accumulé des déficits courants. Qu'est-ce que ça veut dire? À la limite, on s'en fiche d'avoir des déficits ou des excédents. Le problème, c'est que quand vous avez des déficits, en fait, vous accumulez des dettes pour les rembourser. Et à un moment, en 2008, quand la crise américaine a surgi, et que les taux d'intérêt ont commencé un peu à augmenter pour le reste du monde, on s'est rendu compte qu'il y avait des pays qui avaient accumulé tellement de dettes qu'on ne voulait plus leur prêter au taux d'intérêt auquel on leur prêtait quelques années auparavant.
On va revenir dans un très court instant maintenant sur cette crise des dettes publiques. Jean Quatremer, sur cette incapacité à créer de la convergence des économies, sur le constat et sur les solutions. L'une des manières peut-être de répondre à tout cela, c'est d'avoir un budget européen assez conséquent qui vous permettrait de faire du transfert de richesses, qui permettrait de faire des investissements dans les pays qui en auraient le plus besoin. En la matière, on sait, on se souvient l'appel de Emmanuel Macron lors de son discours de la Sorbonne qui avait dit il faut un budget européen de plusieurs points de PIB. Alors effectivement, il y a maintenant un budget européen, mais on est quand même très très loin du compte. Est-ce que il vous semble de nature aujourd'hui à répondre justement à ce défi de la convergence, Jean Quatremer?
Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur un petit point qui est celui de la réussite de l'euro. On vient de l'évoquer à l'instant, ce sont les taux d'intérêt. Je veux dire qu'il faut bien voir qu'on n'a jamais eu des taux d'intérêt aussi bas dans la zone euro, et notamment en France. Il faut bien voir que la France, par exemple, se finance sur les marchés à un taux dont elle ne pouvait même pas rêver avant l'euro. Aujourd'hui, la France emprunte, comme l'Allemagne, à 50 ans. Je veux dire qu'aujourd'hui, en pleine crise des gilets jaunes, la France vient de lever sur les marchés plusieurs milliards à un taux inférieur à celui auquel elle empruntait il y a encore un mois, au début de la crise des gilets jaunes. C'est vous dire l'incroyable réussite. Et ça, il faut pas le passer par perte et profit, parce que c'est le financement de l'économie, c'est le financement des ménages aussi. Dire aujourd'hui, vos taux d'intérêt pour acheter votre appartement ou votre maison, ils n'ont jamais été aussi bas. Donc c'est quelque chose aussi, ça fait partie des réussites qu'on oublie un petit peu. Alors, au tout début de votre présentation, vous expliquiez que l'euro visait à la convergence des économies, etc. Je pense que le but de l'euro, c'était pas tellement ça. Franchement, c'était pas une question économique, c'était pas une question financière.
C'était affiché comme tel, la convergence des économies, Jean Quatremer.
Oui, mais c'était le but de tout cela, c'était l'union politique. Je veux dire que si on fait l'Europe, d'abord, alors c'est pour instaurer la paix, effectivement les bénéfices qui vont avec la paix, c'est-à-dire une zone commerciale pacifique qui peut commercer entre elles, et l'euro a été conçu comme un instrument qui permettrait d'achever l'union politique, qui permettrait d'aboutir à une fédération européenne ou à une république européenne, je ne sais, on peut l'appeler comme vous voulez, mais c'était juste un pas vers cette union politique. Et en 1991, quand on commence à négocier le traité de Maastricht, c'est bien ce que veulent les Allemands. Les Allemands disent, écoutez, une monnaie sans État, ça n'a jamais existé et ça ne survivra pas à des chocs extérieurs. Il faut donc un État, il faut donc une union politique. Et à l'époque, ce sont les Français qui refusent cette union politique parce que les Français n'étaient pas prêts. Les Français étaient, François Mitterrand savait parfaitement que la France refuserait un fédéralisme parce que en France, le fédéralisme est considéré généralement comme un super État et en plus, il y a un attachement très fort à la souveraineté économique. Quelque part, nous les Français, on avait le sentiment de réussir un hold-up extraordinaire en faisant main basse sur le Deutschmark, qui était de facto la monnaie de l'Union européenne de l'époque, mais on n'avait aucune envie de céder ce qui faisait notre spécificité, c'est-à-dire notre souveraineté et notre force politique sur la scène internationale. Et ce qui, depuis 1999, au lieu de faire des pas vers ce fédéralisme, on s'est arrêté, on s'est comporté comme des rois feignants. C'est-à-dire, puisque les marchés prêtaient au même taux à la Grèce et à l'Allemagne, pourquoi faire des partages de souveraineté nécessaires, c'est-à-dire achever cette union politique? Ça veut dire quoi, achever l'union politique? C'est faire exactement comme aux États-Unis ou comme en Allemagne ou comme en Suisse. C'est-à-dire que vous avez des États fédérés qui font à peu près ce qu'ils veulent chez eux. Et au-dessus de cela, vous avez un gouvernement qui est élu, qui répond devant un parlement qui est lui-même élu, qui contrôle un budget qui s'applique à l'ensemble de la zone, à l'occurrence de la zone euro, et un trésor européen qui emprunte sur les marchés. Ensuite, de savoir si la Californie fait faillite, si l'Ontario fait 15% de déficit, tout le monde s'en fiche, ça regarde chaque État fédéré. Et là, comme on n'a pas été jusqu'au bout, eh bien on a instauré des contrôles technocratiques directement de Bruxelles, donc c'est-à-dire de la Commission européenne et de l'Eurogroupe, c'est l'enceinte qui regroupe les ministres de finances, sur nos budgets nationaux, et c'est ça qui dysfonctionne aujourd'hui dans la zone euro.
On va revenir, parce que là, on est déjà finalement dans l'eurocrise, mais si je reviens sur la question du budget de la zone euro, est-ce que vous me dites, en gros, en ne répondant pas à cette question, en fait, c'est, c'est pas ça qui va résoudre notre problème de la convergence économique. C'est ça que vous me dites, Jean
si,
80?
Non, ce que je dis, c'est que simplement, si on avait eu un budget de la zone euro, qu'est-ce qui se serait passé, même en 2008 ou même avant? Bien, vous auriez pu avoir on aurait pu faire des investissements directement, c'est-à-dire de Bruxelles, dans un certain nombre de pays, par exemple en Grèce, pour leur permettre de rattraper leur retard. Là, qu'est-ce qui se passe? Avec le budget européen tel qu'il existe aujourd'hui, donc il s'applique pas seulement à la zone euro, mais qui s'applique à l'ensemble des pays de la zone euro, on donne de l'argent à des États et on leur fait confiance pour qu'ils le dépensent au mieux, au bénéfice de leur économie. En Grèce, c'est pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on leur a donné à peu près 4% de leur PIB pendant 20 ans, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Eh bien, ils ont augmenté les salaires des fonctionnaires, ils ont fait des dépenses somptuaires, du clientélisme, etc. C'est-à-dire que quand on voit par exemple que les fonctionnaires ont été augmentés en 10 ans de 60%, il y a juste un problème, il y a quelque chose qui ne va pas au regard de la compétitivité de ce pays. Et donc, on n'a pas contrôlé ce que faisaient ces pays avec leur argent. Si c'était un budget fédéral, ça ne serait pas passé comme ça. C'est-à-dire, on aurait dit aux Grecs, non, c'est des autoroutes de l'information, vous allez moderniser votre réseau ferré, etc., etc. Et donc, on aurait sans doute permis une meilleure convergence. Là, on s'est comporté comme un club de gentlemen, où chacun faisait confiance à l'autre, alors qu'on vivait sous le même toit monétaire. Ça ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe, évidemment.
Anne-Laure Delatte, sur cette question du budget de la zone euro. Et est-ce qu'il vous semble qu'en l'état, celui qui a été décidé récemment, peut permettre justement d'aller vers plus de convergence, qui était ma question initiale?
Ok, alors, que les choses soient claires, non.
Bon, ben voilà, c'est clair.
Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Premièrement, cette divergence à laquelle on a assisté, c'était encore une fois, c'est une divergence des dettes et des dettes privées. D'accord. En revanche, les PIB par tête ont plutôt eu tendance à converger. Je veux dire, les Grecs et les Italiens sont plus riches qu'il y a 20 ans, et ils sont plus riches proportionnellement à nous qu'il y a 20 ans. Donc il y a quand même un effet de convergence dans la zone euro, clairement, qu'il faut observer et il faut se féliciter pour ça. Maintenant, il y a une claire divergence des dettes privées et des situations d'endettement du coût public. Alors, qu'est-ce que un budget pourrait faire? La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que faire croire que un budget aurait permis une convergence macroéconomique au cours des 20 dernières années, ça n'est pas vrai du tout. Ça n'est pas comme ça que ça se passe aux États-Unis, d'ailleurs.
Mais alors, pourquoi on le fait maintenant, alors? Est-ce qu'on a raison?
Alors, aujourd'hui, en fait, le budget qu'on a aujourd'hui, qui est le MFF, il est de 1% seulement du PIB. Alors, effectivement, il est redistribué de façon plus ou moins hétérogène sur les pays, et il a permis une certaine convergence d'ailleurs. C'est quoi le MFF aujourd'hui? 2/3 du MFF, c'est de la convergence et la PAC, la politique agricole commune. En réalité, il est surdimensionné pour les agriculteurs, et il n'a pas permis de faire grand chose d'autre, à part quand même qu'il y a un peu de convergence pour la Croatie notamment, on la cite toujours. Bon. Aujourd'hui, le budget qui est envisagé par l'accord franco-allemand, il est minuscule. D'abord, on ne sait pas de combien il serait, mais on ne parle pas de points de PIB. Hein. On en est à 0,0. Enfin, on n'a absolument aucune idée de combien ce serait. Si c'était quelque chose, ce serait minuscule. Aujourd'hui, nous, on a fait des propositions avec Thomas Piketty et un ensemble de politistes que Jean Quatremer connaît, ces propositions, et qui vont dans le sens de l'analyse de Jean à l'instant. L'idée, effectivement, c'est que au-delà du budget, en réalité, l'euro, c'est quoi? C'est une étape supplémentaire vers un projet d'intégration. Et effectivement, il y avait cette idée d'intégration politique. L'Europe, ça commence avec le charbon. Hein, dans les années 50, le charbon, ça nous semble pas important aujourd'hui, mais c'était une ressource stratégique. C'était absolument extraordinaire qu'on arrive à mettre les Allemands et les Français autour d'un accord commercial sur une ressource stratégique. On avance comme ça, petit à petit, par la méthode des petits pas, et on met l'euro en commun. Enfin, on met une monnaie commune dans les années 90, en se disant que, effectivement, on va réussir à la faire sans État. Pourquoi on fait ça? En fait, on a toujours procédé de cette façon-là dans le projet européen. Ça n'est pas extraordinaire. C'est ce que les pères fondateurs appelaient, ils disaient, ça n'est pas une erreur, c'est une caractéristique. En réalité, on a fait en permanence un voyage entre l'intégration positive et l'intégration négative. Qu'est-ce que c'est l'intégration négative ? C'est je mets les choses en place, je sais que ça n'est pas complet. Ça n'est pas achevé, pour reprendre l'expression du bouquin de Jean, mais on l'achèvera une fois que les citoyens l'auront compris, ou pendant des crises. Et ce qui s'est passé là, pendant la crise de l'Europe, c'est qu'on a mis en place des mesures qu'on n'aurait pas mises en place avant.
Alors attendez, on va y revenir, Anne-Laure Delatte, parce qu'il faut effectivement... Qu'on avance doucement, mais qu'on ne rate rien, si je puis dire. On est dans le sillage de la crise financière de 2008. Tous les pays de l'Union européenne sont ébranlés, avec des crises de la dette qui apparaissent en 2010 du côté de la Grèce, et puis qui vont progressivement s'étendre, l'Italie, l'Irlande, l'Espagne. On est en juillet 2012, alors que le taux à long terme espagnol flambe, on est au-dessus de 7,6%, et qu'il y a un réel risque là d'éclatement de la zone euro. Le président de la Banque centrale, Mario Draghi, intervient. Écoutez.
Dans le cadre de notre mandat,
l'ECB...
La Banque Centrale Européenne est prête à tout faire pour préserver l'euro. Et croyez-moi, cela suffira.
Ça a été très important parce que effectivement, ça a calmé les marchés, ça a été absolument décisif. Il y a d'autres choses qui ont été faites à ce moment-là. On a annoncé la création d'une union bancaire avec un mécanisme de supervision unique, avec un mécanisme de résolution unique. Là, on est à un moment décisif. Est-ce que six ans et demi, presque sept ans après, ce genre de crise qu'on a connue est derrière nous et aujourd'hui, on en est protégé. Anne-Laure Delatte, et ensuite je me tournerai vers Jean Quatremer. On va commencer avec vous, Anne-Laure Delatte.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est absolument majeur. Et depuis, Mario Draghi, on l'appelle Super Mario, dans le sens où il a sauvé la zone euro d'une crise qui aurait probablement fait éclater la zone euro, comme l'Argentine a dû à un moment...
C'est juste cette déclaration ou ce sont d'autres choses?
Alors, c'est essentiellement cette déclaration.
Et
là, oui, tout ce qui a été fait autour, c'est des choses qui sont très importantes, mais sans cette déclaration, l'euro n'existerait plus. Et on a des recherches là-dessus qui nous montrent que c'est vraiment au moment de ce discours que les taux dégringolent, reviennent à un taux, au taux moyen d'avant la crise.
Bon, donc tous les mécanismes qu'on a mis en place, ça sert à rien.
Non, pas du tout. Alors, je n'ai pas dit ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vous disais qu'on est capable de se réformer pendant la crise, ce qu'il faut comprendre, c'est que plein de tabous sont tombés, en réalité. On n'avait pas envisagé une Banque Centrale Européenne qui serait prêteur en dernier ressort. Or, c'est exactement ce qui se passe quand Mario Draghi dit, et croyez-moi, ce sera assez. Ça veut dire que la Banque centrale qui a la liquidité ultime sera capable, croyez-moi, de fournir toute la liquidité pour sauver le marché. Premièrement, premier tabou qui tombe, c'est le prêteur en dernier ressort. Deuxième tabou, pas de bail-out, pas de renflouement. Les Allemands tiennent absolument à ça dans les années 90 et on les comprend, ils nous confient leur monnaie stable, parce qu'on adopte en réalité le Deutschmark, l'euro c'est le Deutschmark, mais à une condition, c'est que on ait une discipline budgétaire qui empêche que les Allemands aient à renflouer des États qui ne seraient pas disciplinés. Or, on met en place le mécanisme de stabilité européen. Deuxième tabou qui tombe. Il y en a deux autres. Le troisième tabou qui tombe, c'est qu'on ne devait pas avoir d'assistance de liquidité en cas de déficit et de surplus courant. En réalité, Target 2 va résoudre ça. Et on a un Allemand, Hans Werner Sinn, qui hurle à ce moment-là en disant « Mais en fait, on est en train de prêter de l'argent à des gens qui font n'importe quoi. » Et le quatrième tabou, si je peux me permettre, on disait « Pas de monnaie sans État ». Et en réalité, il y a une gouvernance quasiment entre politique et économique qui se met en place avec l'Eurogroupe qui se réunit toutes les deux semaines à ce moment-là pendant la crise.
Alors, on va revenir sur l'Eurogroupe, mais d'abord, Jean Quatremer, on va faire un sort à la BCE, à l'action de la BCE, à ce Super Mario. J'ai évoqué là ce moment absolument décisif de juillet 2012. Est-ce que, je vous repose la même question, est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'abri de ce genre de crise, puisque Super Mario a parlé, puisqu'on a mis en place un certain nombre de systèmes et de mécanismes, ou est-ce que ça pourrait se reproduire? Et puis ensuite, on verra pour l'Eurogroupe, mais on va commencer par ça, Jean Quatremer.
Je pense qu'on est effectivement désormais totalement à l'abri de la crise qu'on a connue entre 2010 et 2012. Mais moi, je l'interprète pas exactement de la même façon. Parce que pour moi, la crise de 2010-2012, ce n'est pas une crise des dettes souveraines, c'est une crise bancaire qui a été mal analysée. Et c'est une erreur qui a été commise, d'ailleurs, à cause des Allemands et de leur refus en 2008, je le rappelle, de créer tout de suite une union bancaire. Je vous rappelle que les pays qui ont été au bord de la faillite étaient des pays qui étaient plutôt, en dehors de la Grèce, qui est un cas à part, étaient des pays qui étaient budgétairement très bien gérés. Je veux dire, l'Espagne ou l'Irlande, par exemple, voire Chypre, n'avaient strictement aucun problème, ça les a pas empêchés d'être au bord de la faillite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment de la faillite de Lehman Brothers, les États se sont portés garants de façon indéfinie sur le budget public des dettes bancaires. Et au moment de la crise grecque, en 2009, en revanche, ils refusent de se porter garants des dettes publiques. C'est cette inversion de la causalité, si j'ose dire, qui a créé la panique. Pourquoi ? Parce que les marchés se sont dit, quels sont les États qui sont capables de venir au secours de leur secteur bancaire et qui peuvent, par ailleurs, rembourser la dette qu'ils ont contractée sur les marchés ? C'est simple, ce sont les grands États, et en tous les cas, pas les États périphériques qu'ils jugeaient extrêmement fragiles. Et c'est ces États qui sont tombés les uns après les autres. Et la séquence ne commence pas en juillet 2012, où on entend Mario Draghi dire « je ferai tout ce qu'il est nécessaire de faire pour sauver l'euro », il n'a pu le dire que parce que en juin 2012, les États décident de mettre en place une véritable union bancaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'union bancaire, c'est le contrôle des grandes banques par la Banque Centrale Européenne directement, et ça veut dire qu'il n'y aura plus désormais, sauf panique générale, de sauvetage des banques sur fonds publics. Et ce qui permet ensuite à Mario Draghi, dans un deuxième temps, de dire, puisque on a coupé ce lien mortifère entre la dette bancaire et la dette publique, moi, je me porte garant de l'ensemble des dettes publiques. Donc la crise telle qu'on l'a connue, elle est aujourd'hui terminée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas en avoir une autre d'une autre façon.
Moi, pour moi, la crise... Il peut y avoir encore des problèmes.
Pas comme ceux qu'on a connus. Pas de cette nature. Mais je pense que les problèmes qu'on va avoir, et ça commence aujourd'hui avec la montée des populismes partout, ce sont plutôt des problèmes politiques et plus des problèmes techniques.
Alors, justement, venons-en peut-être, parce que l'autre organisme décisionnel, on parlait de la BCE, mais en matière de politique économique et monétaire, c'est l'Eurogroupe, qui est au fond la véritable instance décisionnaire sur la monnaie unique.
Absolument.
Septembre 2017, Pierre Moscovici parle à propos de la gouvernance de la zone euro de scandale démocratique. Reconnaissons-le, l'Eurogroupe est une pâle imitation d'un organe démocratique. Et là arrivent, j'allais dire, les problèmes politiques, Jean Quatremer. Essayez de nous aider un tout petit peu pour qu'on comprenne bien ce qui pose problème avec cet Eurogroupe, parce que je pense que c'est exactement ce que vous pensez. Vous êtes sur cette ligne-là pour vous avoir lu, j'ai bien compris ça. Et est-ce qu'on peut avoir un fonctionnement plus démocratique de cette zone euro ? Et ensuite, on posera la question à Laure Delatte. Jean Quatremer.
D'un côté, il y a une politique monétaire qui est fédérale, qui aujourd'hui n'est absolument plus contestée par personne. Il faut se rappeler les contestations du début des années 2000. Et ce qu'elle est aujourd'hui, tout le monde admire la Banque Centrale Européenne. C'est devenu une sorte de réserve fédérale américaine. Mais le deuxième pilier, qui est le pilier économique et budgétaire, lui, n'est pas démocratique. On a réussi à faire à Bruxelles, à créer en fait une démocratie illibérale, un rêve, je dirais, orbanesque du nom de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Pourquoi ? Parce que la zone euro ne fonctionne pas du tout comme l'Union européenne, qui, elle, a un Parlement européen ou une instance démocratique qui contrôle ce que fait à la fois la Commission et le Conseil des ministres, l'instance où siègent les États. La zone euro a un système tout à fait particulier. C'est-à-dire que les textes qui régissent alors la zone euro sont bien adoptés par le Parlement européen, par la Commission le propose, etc. Donc c'est très démocratique. Mais ensuite, dans son fonctionnement quotidien, la Commission élabore dans le plus grand secret une série de propositions qui sont adoptées dans le plus grand secret derrière des portes closes par l'Eurogroupe, c'est-à-dire l'enceinte des ministres des Finances, qui ne rendent compte à personne, et ni la Commission ni l'Eurogroupe ne rendent compte devant un Parlement de la zone euro ou devant le Parlement européen, si on imagine que le Parlement européen pourrait être le Parlement de la zone euro. C'est-à-dire que là, on a deux instances à la légitimité nulles, parce qu'il faut le dire, elles sont, les légitimités de la Commission et de l'Eurogroupe sont absolument nulles, qui ne rendent de compte à personne de leurs actions. Et ça, pour moi, c'est le cœur du problème. Ouais. C'est vraiment là que ça dysfonctionne, et c'est ce que ressentent nos citoyens, parce que, contrairement à ce que croient nos élites, les citoyens se rendent bien compte que quelque chose ne va pas dans la gestion économique et budgétaire de la zone euro.
Anne-Laure Delatte, sur cette question de l'opacité de l'Eurogroupe, comment est-ce qu'on fait pour introduire un peu de démocratie là-dedans, et puis ensuite, on ira du côté de la Bulgarie. Mais d'abord sur ce point.
Alors, une fois qu'on a dit ça, on a un problème de légitimité démocratique dans la gouvernance de l'euro et européenne plus généralement, il me semble.
Pourquoi? Mais regardons sur l'Eurogroupe, aujourd'hui de l'euro.
Je vais revenir sur l'Eurogroupe. Pourquoi? Parce que l'Eurogroupe, c'est quoi? C'est une gouvernance intergouvernementale. Ce qui veut dire que quand ça se passe derrière les portes closes, ce sont des ministres des Finances nationaux qui parlent entre eux. Donc, ils ont une certaine légitimité démocratique puisqu'ils ont été élus, ces gens-là. En revanche, en mettant gouvernement et gouvernement ensemble dans une même pièce, qu'est-ce que vous faites? Vous faites discuter des intérêts nationaux. Ces gens-là sont élus par leurs électeurs nationaux. Donc, ils défendent systématiquement leurs intérêts nationaux. Or, quand on voulait signer des accords commerciaux, on avait tous à y gagner, donc c'était facile. Et c'est ce qu'on a fait dans les années 80. En revanche, maintenant qu'on a un problème de dette et de dette privée, vous avez des créanciers d'un côté et des débiteurs de l'autre, vous avez des intérêts qui sont en conflit. Et sans arbitre, on n'y arrivera pas. Donc la première chose, c'est qu'il faut sortir de cette régulation intergouvernementale, de cette gouvernance intergouvernementale. Sortir de l'Eurogroupe, qu'est-ce qu'on fait quand on veut sortir de l'intergouvernemental? Ben on met du parlementaire, en fait. Il faudrait remettre du parlementaire, non pas seulement dans la zone euro, mais dans l'ensemble de l'Union européenne, parce que quand Jean Quatremer dit on a un système démocratique qui fonctionne dans l'Union européenne avec des gouvernements qui sont sous le contrôle, une commission qui est sous le contrôle du Parlement, c'est quand même aller bien vite sur le pouvoir du Parlement européen. Donc la proposition que nous faisons dans le TEDEM, qui a été signé par plus de 100 000 citoyens depuis un mois, c'est de mettre en place une seconde assemblée parlementaire au niveau de l'Union européenne, qui aurait un droit, le dernier mot, un droit de vote, de délibération sur un budget commun, mais pas le budget actuel, on ne touche pas au budget actuel, on crée un nouveau budget, et qui aurait un droit de délibération et de vote, et de dernier mot sur l'instance sur les instances actuelles. C'est-à-dire que l'Eurogroupe, on le garde, mais ça n'est pas lui qui décide.
On va parler de la Bulgarie. La Bulgarie qui est dans l'Union européenne, mais qui n'est pas dans la zone euro. Depuis son adhésion en 2007, on discute beaucoup des avantages et des risques de l'entrée dans la zone euro. Pendant longtemps, les autorités de Sofia n'avaient rien fait de vraiment concret pour prendre cet euro. Et puis récemment, c'était à l'été 2018, il y a une lettre qui a été officiellement transmise. On va retrouver Sandrine Levasseur, qui est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Sandrine Levasseur, en quelques mots, les différentes étapes pour adopter l'euro et puis nous dire où en est aujourd'hui la Bulgarie?
Tout État membre de l'Union européenne qui souhaite intégrer la zone euro doit respecter 5 critères. Un critère en termes d'inflation, un critère en termes de taux d'intérêt, de dette publique, de déficit public et aussi un critère d'appartenance au mécanisme de change européen. Donc concrètement, basiquement, donc en termes de taux d'intérêt, il faut que le pays ait un taux d'inflation faible. Alors calculé comme un taux d'inflation qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage, le taux d'inflation des 3 pays membres de l'Union européenne les moins inflationnistes. Tout ça est très technique, mais au regard de ce critère, donc la Bulgarie, je pense, n'aura pas trop de mal à le remplir en vue d'adhérer à la zone euro.
Mais ce ne sont pas les critères de Maastricht, ce sont d'autres critères, ça va au-delà.
Ce sont les critères de Maastricht, stricto sensu. Sachant que maintenant, nous avons un critère supplémentaire qui s'applique depuis 2014. Alors, c'est implicite, ce n'est pas explicite. Dans le sens où, depuis 2014, nous avons en zone euro, donc, également une union bancaire. Et tout pays qui est membre de la zone euro devient ipso facto membre de l'union bancaire. Et c'est là où effectivement, dorénavant, il y a une nouvelle précondition qui va s'appliquer à Sofia si elle souhaite rentrer dans la zone euro.
La question que je me pose, Sandrine Levasseur, c'est aujourd'hui, ce système bancaire et financier bulgare, est-ce qu'il est suffisamment solide pour espérer intégrer la zone euro ou est-ce qu'il y a encore des incertitudes? Et si oui, où? Finalement, quelles sont les principales fragilités qui pourraient exister aujourd'hui?
Alors, effectivement, il y a des incertitudes sur la stabilité du système bancaire bulgare. La Banque centrale européenne, qui dans le cadre de l'union bancaire est chargée de la supervision des banques systémiques, c'est-à-dire des grosses banques, a demandé justement un audit comme précondition à l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro. L'audit a commencé en novembre 2018 et nous aurons les résultats en juin 2019. Alors, pour l'instant, si on regarde effectivement les chiffres agrégés, donc la globalité du système bancaire bulgare, il apparaît relativement sain. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits par rapport à 2014, là où il y a eu des soucis avec donc une faillite bancaire, des opérations de fusion, une restructuration très profonde du système bancaire bulgare. Depuis lors, il y a eu des progrès qui ont été réalisés au niveau agrégé, mais ça n'exclut pas qu'il y ait malgré tout une ou deux banques, même peut-être plus, qui soient relativement fragiles, auquel cas si la Bulgarie rentrait dans la zone euro, ça pourrait effectivement poser des problèmes pour la stabilité de la zone euro.
Alors, il y a le système bancaire et le système financier, mais il y a aujourd'hui en Bulgarie un problème peut-être plus profond qui est celui de la corruption. C'est une inquiétude qui est assez forte, et notamment du côté de la Commission et même de la Banque Centrale Européenne. Quelle est l'ampleur des dégâts, si je puis dire, et est-ce qu'il y a réellement des raisons de s'inquiéter? Et est-ce que Sofia, parce que c'est quand même un domaine sur lequel le gouvernement essaye de lutter, est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à faire reculer la corruption de façon à lui faire atteindre des niveaux, j'allais dire, acceptables? Parce qu'évidemment, la corruption, ce n'est pas seulement la Bulgarie et d'autres pays d'Europe, bien sûr, peuvent être concernés. Est-ce qu'on est là sur des niveaux acceptables?
A priori, pour l'instant, non, on n'est pas encore sur des niveaux acceptables. Il y a eu des progrès qui ont été réalisés. Malgré tout, c'est vrai que c'est un pays qui est très, très corrompu et ça pose des problèmes. Le problème, il existe depuis très, très longtemps. Le plus important est peut-être que tant que la Bulgarie n'était pas membre de l'Union européenne, on avait une espèce de carotte en leur disant « il faut lutter vraiment de façon efficace contre la corruption, sinon vous ne rentrez pas dans l'Union européenne ». Mais malgré tout, on les a fait rentrer dans l'Union européenne et voyez-vous, maintenant la carotte a disparu. C'est ça qui est un peu compliqué.
Si l'on revient, Sandrine Levasseur, sur la question monétaire stricto sensu, la Bulgarie possède bien sûr de fait donc sa propre monnaie, qui est la leve, mais en fait sa monnaie elle a un taux de change fixe par rapport à l'euro depuis quasiment une vingtaine d'années, depuis 99, par le truchement d'un système qu'on appelle le currency board, qui est un système d'émission dans lequel la valeur de la monnaie en question est indexée à une autre monnaie, et en l'occurrence l'euro. Quels ont été les effets de cette indexation et donc de ce système monétaire très particulier? Est-ce qu'il a limité la marge de manœuvre de la Bulgarie pour dynamiser éventuellement l'économie quand c'était utile? Et est-ce qu'une adoption pleine et entière de l'euro va changer quelque chose sur le plan de la politique monétaire de Sofia?
Le système de currency board, compte tenu des problèmes d'hyperinflation que le pays avait connus en 1997, a permis vraiment de stabiliser la valeur de la monnaie et de crédibiliser la valeur monétaire, tout simplement en important cette crédibilité, tout d'abord de la Bundesbank, puis après en important cette crédibilité de la Banque Centrale Européenne. Donc de ce point de vue-là, ça a été, je pense, bénéfique pour l'économie bulgare.
Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des effets néfastes?
Les effets néfastes, effectivement, de temps en temps, peut-être qu'ils auraient souhaité que la valeur de la leve se déprécie par rapport à l'euro, mais globalement, sur le moyen et long terme, compte tenu de l'absence de crédibilité des autorités monétaires qui leur avaient causé de gros problèmes durant la période d'hyperinflation, le gain global a été positif.
Sandrine Levasseur, peut-être ma dernière question, parce que quand on regarde un peu les choses, parmi les pays de l'Union européenne, en fait la Bulgarie est le seul pays qui entreprend aujourd'hui des démarches pour adhérer à la zone euro. Comment le comprendre et quels sont les avantages attendus? Parce que j'imagine qu'on en attend très clairement. Il y a probablement des secteurs sur lesquels on se dit on va pouvoir tirer profit de l'adoption de l'euro.
Alors, il y a toujours les arguments standards hein, de suppression des coûts de conversion des monnaies, plus grande transparence des prix, tout sera facturé en euros. Donc, ça facilite le calcul économique, ça doit booster les exportations. Tout ça, c'est bénéfique de ce point de vue. Certaines mauvaises langues vous diront que les Bulgares ont anticipé potentiellement une réorientation des institutions européennes avec plusieurs cercles et peut-être une restriction des fonds structurels pour les pays qui ne seraient pas membres de la zone euro. Donc, les Bulgares étant très dépendants de la zone euro, peut-être qu'ils auraient déposé leur candidature en vue de se garantir des fonds structurels suffisants dans les prochaines années.
Et est-ce qu'une fois encore, il n'y a pas des risques économiques à la clé ? Aujourd'hui, la santé économique du pays se porte pas si mal. On a un pays qui est relativement peu endetté, peut-être l'un des moins endettés de toute la zone euro. On est à peine à 25% du PIB. On a un chômage qui oscille entre 7 et 8%, ce qui n'est pas si terrible. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur ces deux points, par exemple ?
Le chômage, on sait comment les Bulgares l'ont fait fondre. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu beaucoup d'émigrations de Bulgares vers d'autres pays de l'Union européenne, notamment l'UE 15 qui est plus développé. Hein. 800 000 Bulgares vivraient actuellement dans l'UE européenne à 15. Donc ça, c'est un premier point. Ça fait baisser le chômage hein, de façon automatique. Ensuite, il faut bien avoir en tête que de toute façon, depuis plus de 20 ans, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il n'y a plus possibilité d'utiliser l'outil du taux de change pour rebooster l'économie. Donc ils ont déjà perdu cette marge de manœuvre. Le problème des pays qui sont en currency board et qui avaient déjà concerné par exemple l'Estonie qui est rentrée dans la zone euro il y a quelques années maintenant, c'est donc le taux de change est fixe, irrévocable. Il n'y a plus d'autonomie sur la politique monétaire. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Si un jour vous dites, bon bah finalement, on a besoin d'un petit peu de flexibilité de notre taux de change, vous risquez de faire peur aux investisseurs et pour le coup de créer une crise de change énorme. Donc finalement, la seule solution peut-être pour sortir d'un currency board, c'est d'adopter une autre monnaie. Et en l'occurrence, dans le cadre des Bulgares, comme ça l'a été dans le cadre de l'Estonie, adopter l'euro.
Et est-ce que adopter l'euro, ça va attirer les investisseurs ?
Oui, je pense qu'il y a un effet qui est bénéfique de ce point de vue-là, oui. Un supplément de certitude. Voilà, maintenant, on a franchi une étape supplémentaire en matière d'intégration, on a l'euro.
Merci beaucoup Sandrine Levasseur, je rappelle que vous avez participé au numéro 160 de la revue de l'OFCE sur les questions européennes, titré « Améliorer la construction européenne ». Jean Quatremer, réaction, on arrive au terme de cette émission, allez, une petite minute. Vous, l'intégration de la Bulgarie dans la zone euro, vous êtes pas pour, hein ?
Je suis totalement opposé. Il faut arrêter d'élargir l'Union européenne ou la zone euro tant qu'on ne l'a pas réformée en profondeur. Je veux dire que accueillir de nouveaux pays, c'est la certitude que la réforme ne se fera pas et on menace notre acquis. Donc fédéralisons d'abord la zone euro et ensuite on accueillera la Bulgarie et d'autres pays.
Oui, vous, ça c'est votre idée dans votre livre. Il faut aller vers plus de fédéralisme. C'est la seule manière de stabiliser l'euro. Anne-Laure Delatte.
Moi, je conclurai en disant que la prochaine crise sera une crise politique et qu'on est déjà dedans avec la montée des populismes. Et que c'est quoi le projet européen au-delà de la monnaie unique ? C'était un projet politique et qu'il faut faire rêver les citoyens. Quels sont les enjeux aujourd'hui essentiels ? Qu'est-ce qui concerne les citoyens ? C'est le changement climatique. C'est la crise migratoire qu'on a gérée de façon absolument catastrophique, et la montée des inégalités. Quand on parlait de convergence, il y a aussi un point, c'est qu'il y a des Allemands pauvres et des Grecs riches. Et donc, il faut aussi régler ces inégalités à l'intérieur des pays. Donc, dans les propositions qu'on a faites avec Thomas Piketty dans le TEDEM, on propose un budget commun, encore une fois, qui serait délibéré et voté par cette nouvelle assemblée parlementaire, et dans le budget commun, on essaye de mettre en place des fonds et de l'argent pour enfin gérer de façon collective les enjeux collectifs qui ne peuvent plus être adressés au niveau national. Le changement climatique et l'accueil et l'intégration des réfugiés et des migrants.
Le TEDEM à retrouver sur tedem.eu.
www.tedem.eu, plus de 100 000 signatures.
Lost, still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learned nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look, how the traffic's still moving.
Et à retrouver en dur cette fois également, le dernier livre de Jean Quatremer paru il y a quelques jours. Il faut achever l'euro, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'euro sans oser le demander. Jean Quatremer qui est paru chez Kalman Levy. Merci Jean Quatremer.
Merci à vous.
Et un grand merci également aux techniciens qui ont permis de faire ce duplex dans les bureaux de Jean Dickinson. Merci beaucoup.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Le maire de Danse dont vous nous parliez hier, un libéral appartenant à l'opposition, a été assassiné, c'était il y a une semaine. Comment cet événement est-il ressenti en Pologne?
Eh ben, l'assassinat de Paweł Adamowicz est en train de causer un salutaire examen de conscience dans toute la Pologne. La moitié de la ville était dans la rue pour accompagner sa dépouille mortelle jusqu'à la basilique où a été concélébrée une cérémonie religieuse œcuménique à laquelle ont participé des représentants de tous les cultes. Une manifestation donc de pluralisme et d'ouverture, les valeurs dont il se réclamait lui-même. Le président de la République et le Premier ministre eux-mêmes assistaient aux funérailles d'une personnalité qu'ils n'avaient pourtant cessé de stigmatiser. De tels rassemblements ont eu lieu la semaine dernière dans toutes les grandes villes de Pologne. Le pays semble enfin décidé à enrayer le spectre, la spirale de la haine politique qui le déchire. Alors pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, les Polonais cherchent à la fois des précédents dans leur histoire et ils s'interrogent sur les causes particulières de cette inquiétante montée de la violence dans la Pologne d'aujourd'hui. Mais il faut admettre que le cas de la Pologne n'est pas isolé. Dans toutes nos démocraties, la polarisation politique est en passe de devenir explosive. Partout, les haines politiques débouchent sur la violence. Elles fragilisent la démocratie et favorisent les régimes autoritaires qui apparaissent comme plus tranquilles parce que la politique n'y est pas l'affaire des citoyens, mais d'un parti, comme en Chine, ou d'un clan, comme en Russie. L'intolérance, le fanatisme, les haines irrationnelles fragilisent la démocratie. Celle-ci requiert en effet un consensus minimal sur l'essentiel, le respect de l'adversaire, le sens de la mesure et du compromis. Le Financial Times écrit de son côté « Le tragique assassinat de Gdansk constitue un avertissement pour toute l'Europe. Gdansk a toujours joué un rôle capital dans l'histoire de la Pologne, autrefois comme lieu de naissance de solidarité, plus récemment en tant que centre de l'opposition au gouvernement ultra-conservateur de droit et justice. » Mais il est significatif que le climat de haine politique entretenu dans le pays par son propre gouvernement à des fins électoralistes débouche sur un tel drame. Les médias publics, passés sous le contrôle du gouvernement polonais, entretiennent en effet l'hostilité envers toute forme d'opposition. L'opposition, de son côté, elle brandit le précédent du 16 décembre 1922. Dans la Pologne à peine reconstituée d'alors, Gabriel Narutowicz, président, membre du parti paysan, fut en effet élu président de la République par le Parlement, grâce aux voix de la gauche et des partis représentant les minorités nationales. Et cela provoqua la fureur de la droite nationaliste de l'époque, dont la presse se livra aussitôt à une campagne de dénigrement haineuse. Et certains journaux à l'époque appelaient ouvertement à le supprimer. Eh ben, un extrémiste de droite l'abattit en effet à coups de revolver 5 jours après son élection. À l'époque, comme le souligne Sławomir Sierakowski, cette tragédie ne provoqua pas le sursaut démocratique qui aurait été nécessaire. Au contraire, l'assassin du président fut célébré comme un héros national par la droite nationaliste. Cette fois, au contraire, lit-on dans le Newsweek polonais, il faut que le meurtre du maire de Gdansk stonne la fin de l'époque ouverte par la tragédie de Smolensk, que le pays renoue enfin avec la tolérance et le sens de l'unité nationale. Sinon, d'autres tragédies sont à redouter.
L'affaire de Smolensk, Brice, qu'est-ce que c'était?
En 2010, souvenez-vous, la Pologne connaissait une forme de cohabitation. Le président de la République, Lech Kaczyński, appartenait au parti Droit et Justice, mais le Premier ministre, Donald Tusk, lui, à la plateforme démocratique. Eh bien, le 10 avril 2010, le Tupolev Tu-154, emmenant le président de la République ainsi que de très nombreux officiels polonais, s'est écrasé par mauvais temps sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de Smolensk en Russie. Fâcheuse coïncidence, le président polonais venait justement honorer la mémoire des 20 000 officiers polonais détenus comme prisonniers de guerre par l'URSS et que Staline fit exécuter au printemps de 1940 d'une balle dans la tête dans des fosses communes. 41. C'était manifestement un accident. Et il est probablement dû à l'entêtement personnel du président Kaczyński, déterminé à faire atterrir l'avion présidentiel à tout prix, malgré des conditions climatiques désastreuses. Mais le frère jumeau du président décédé, Jarosław Kaczyński, qui est le vrai patron du parti Droit et Justice, est revenu au pouvoir en 2015. Et depuis, il a multiplié les commémorations, les marches du souvenir, les messes anniversaires et l'affaire de Smolensk cristallise la coupure politique de la Pologne en deux camps apparemment irréconciliables. ceux qui sont persuadés de la version de l'accident donnée par Kaczynski et ceux qui croient à la thèse de l'accident. Pas provoqué du tout. Nationaliste donc contre libéraux. Droit et justice contre tous les autres. Dans les bureaux, dans les cafés et jusqu'au sein des familles, l'affaire de Smolensk provoque des débats houleux.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On continuera demain autour de cet assassinat du maire de d'Angst. Merci beaucoup, cher Brice. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.